Voilà, bonjour à tous. C'est un privilège d'être ici ce matin. Et je m'appelle Paulo, je suis pasteur et missionnaire brésilien. C'est ma épouse, c'est là-bas. Elle s'appelle Valéria, elle est kiné et travaille dans l'hôpital ici à l'Est. Et nous habitons en France à 1-12. Depuis 2016. Et je confesse que pour moi, c'est, la langue française, c'est quelque chose un peu difficile, c'est comme un défi. Parce que l'articulation des mots, la prononciation, c'est vraiment difficile. Voilà. Donc, j'utilise les PowerPoint pour la prédication, pour essayer de faire plus facile pour les gens qui m'attendent et pour lire ensemble, voilà. Et c'est vraiment un privilège d'être là ce matin. Merci beaucoup. Hein. Et ce matin, on va parler d'un prophète que j'ai très connu dans la Bible, qui est connu pour sa histoire avec les grands poissons. Hein. Je parle de Jonas et de ces grands poissons. Voilà. Ce livre, il relate un moment particulier de l'histoire et du ministère de ces grands prophètes d'Israël. Le livre de Jonas est très intéressant et plein d'enseignements pratiques pour nous aujourd'hui, à la fois en tant que l'Église et en tant que personne aussi. Voilà. Avant de démarrer notre prédication, j'ai une invitation à faire à l'Église. Le samedi prochain, nous aurons à 1-12 un concert gospel pour tout l'après-midi, le soir. Pardon. Il démarre à 19h. Il y a trois bandes qui vont jouer. Ces deux bandes sont néerlandaises. Et la troisième, c'est Gospel Train, hein, avec le pasteur Romeras, que peut-être on connaît bien ici. Voilà. C'est le parc des Cordillères à 12, 19h. Vous êtes tous bienvenus. Hein. C'est un événement évangélique que nous voulons avoir tous les gens là pour. Peut-être ont des opportunités de partager un petit peu de l'évangile avec quelqu'un qui est à côté de toi, autour de toi. Voilà. Le samedi prochain, 19h à 1-12. Voilà. Je vous invite à prier. Vous pouvez monter ici, comme toi. Seigneur Dieu, Père, nous te louons pour ta parole écrite, qui est une source de lumière et de vie pour nous aujourd'hui. Nous demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous parle ce matin à travers de l'histoire de Jonas, comme l'a parlé à Israël à cette époque-là. Nous croyons, Père, que ta parole est vivante et qu'une épée à double tranche qui pénètre profondément dans nos âmes, transformant nos vies et nos cœurs. Bénis-nous en ce moment, ce matin, où nous allons étudier ta parole, Seigneur. Nous te demandons au nom de ton fils bien-aimé, Jésus. Amen. Voilà. La première panneau, voilà. D'une manière générale, nous pouvons diviser le livre du prophète Jonas en deux parties. La première partie, c'est la partie des désobéissances, quand Jonas fuit vers Tarsis. Et la deuxième, c'est la partie d'obéissance, quand Jonas prêche à Ninive. Voilà. Entre les deux moments, les deux parties de ce livre, il y a une prière de repentance de Jonas, qui en réponse, Dieu ordonne à la population de les vomir sur la plage. C'est ça se trouve dans Jonas chapitre 2. Dans la première partie de ce livre, Dieu utilise un grand poisson, oui, Et utilise aussi le vent, la tempête. Non, non. Le vent, la tempête, les mers et toutes les choses de la création. Et c'est la deuxième partie. Dieu utilise aussi un petit verre. Il utilise la canicule, voilà, des plantes, et des choses comme ça pour parler avec Jonas. C'est intéressant, c'est le contraste, c'est des choses que Dieu utilise pour parler avec Jonas de ces deux moments de le livre. Ce qui nous frappe dans cette histoire, c'est que le prophète Jonas a péché quand il a désobéi et aussi quand il a obéi à Dieu. Voilà, Jonas, il est dans ce moment qui n'est pas correct avec Dieu, il a un péché. C'est les deux moments de désobéissance et le moment d'obéissance aussi. Il est un péché. Voilà. Voilà, le premier verset de ce livre de Jonas, on lit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Amittai, en ces mots. » Ce premier verset est d'une importance vitale pour nous, que nous comprenions le reste du récit des événements de ce livre de Jonas. Le premier mot, la parole de l'Éternel fut adressée, elle est utilisée 112 fois dans l'Ancien Testament pour décrire une révélation divine à un prophète. C'est le cas pour Jonas, fils d'Amittai. Cette simple référence à Jonas, qui signifie colombe, le fils d'Amittai, qui signifie loyal, ou loyauté et fidélité, identifie Jonas à une vraie figure historique, une vraie personne, qui a prophétisé sous le règne de Jéroboam en Israël entre les années 793 et 750 avant Jésus-Christ. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 14, voilà, on lit la 15e année de Amittai, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, règne à Samarie. Il règne 41 ans. Il fit qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourne d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Faites attention à ce verset suivant. Il est la clé pour que nous comprenons toute la narration et les moments de l'histoire qu'Israël vivre. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hama jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète fils Amittai de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et extrémité à laquelle se trouvait réduit esclave et homme libre, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Ce texte nous révèle qu'Israël est dans une période de détresse à cause des péchés du roi et de ce peuple. Ce texte nous révèle également qu'Israël vit dans une grande misère et qu'il n'est pas la possibilité de différencier les esclaves des hommes libres et que les peuples vivent dans une grande amertume. Même dans cette situation-là, Dieu, dans sa grande miséricorde, donne à Israël plusieurs victoires militaires. Et le texte ci-dessous nous révèle également que les paroles et les directives des victoires militaires viennent de Dieu par la bouche de son prophète Jonas. C'est-à-dire que chaque fois que Jonas annonce une victoire sur un ennemi, le roi envoie ses troupes et elle conquiert de nouveaux territoires. Après un certain temps, Jonas devient le grand prophète de la bonne nouvelle d'Israël. Il est devenu le prophète le plus aimé et le plus cher de cette nation. Le prophète véritablement nationaliste, la fierté d'Israël. Contrairement à Isaïe, Michel, Osée et Amos, qui vivaient en prophétisant à la même époque de Jonas et dont les paroles de jugement contre Israël sont sévères. Voilà, dans le deuxième verset du livre de Jonas, nous lisons comme la parole de l'Éternel est adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est ordre de Dieu pour Jonas d'aller crier contre Ninive, est sans précédent dans l'histoire d'Israël. Pour la première fois, Dieu ordonne à un prophète israélite de quitter son propre pays et d'annoncer en parole à un autre pays qui est l'ennemi de son peuple. Jonas, la fierté d'Israël, devrait maintenant aller vers les gens les plus haïs et les plus redoutés de leur nation et les prêcher la parole de Dieu. Il devrait renoncer à sa réputation nationaliste et mettre en péril son image et son statut social. De plus, Jonas connaît le Seigneur. Il sait que les paroles de condamnation prononcées à l'époque par les prophètes envers Israël, ainsi que les messages adressés à Ninive, sont avertissements de ce qui se passera s'il n'y a pas de regret ou de repentir. Ok. Jonas sait que son Dieu est un Dieu miséricordieux, prêtre à pardonner, et qu'il ne fait pas exception de personne, désirant que tout soit sauvé. Ok, restez là. Jonas comprend que sa vocation est le message à prêcher aux ennemis de son pays, mettra en péril sa bonne réputation et sa bonne image parmi ses compatriotes. Prêcher à Ninive était tout ce qu'il ne veut pas. C'est aller complètement contre sa volonté et son désir. Voilà. Combien de fois cela nous est arrivé aujourd'hui? À quelle fréquence nous sentons-nous inappropriés, honteux ou réticents à partager notre foi avec quelqu'un? Le verset 3. Et Jonas s'élève pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et descendit à Jaffe. Il trouve un bateau qui allait à Tarsis. Il paye le prix du transport et s'embarque pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dieu envoie son premier missionnaire à Ninive, la dernière capitale de l'Empire assyrien. Un empire avec une longue histoire de violence et de cruauté qui a exterminé des nations et des peuples asservis. Une nation si cruelle que sa méchanceté est montée au ciel jusqu'au trône de Dieu. Une nation ennemie et redoutable pour les Israélites, mais en même temps, un peuple très important devant de Dieu, au Seigneur. Avant de condamner Jonas qui essayait de fuir loin de la présence de Dieu ou de sa responsabilité envers des personnes, des gens qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle, nous devons nous examiner nous-mêmes et être honnêtes pour voir si nous ne faisons pas la même chose. Nous sommes également envoyés pour prêcher la bonne nouvelle à tous les peuples et à toutes les nations. Comment avons-nous répondu à cet ordre de Jésus-Christ? Nous faisons ce que nous pensons être le meilleur ou nous obéissons à la voie et la manière et la façon de faire la chose que Dieu nous demande? Comme nous, Jonas est disposé à aller aussi loin que sa bonne image et sa réputation de bon prophète parmi ses compatriotes ne sont pas compromises. Ce valeur personnel, tel que son image de bon prophète, sa fierté, son statut et sa réputation, passaient avant sa fidélité à Dieu. Pourquoi changer votre façon de proclamer la parole de Dieu et si vos actions, comme votre routine ou votre façon d'agir et de penser, fonctionnent bien juste aujourd'hui? Pourquoi changer? Annoncer la parole de Dieu à ses ennemis ninivites ou d'autres façons, c'est aller contre tout ce qui lui plaît, qui plaît le prophète Jonas. C'est consacrer sa vie à une cause qu'il ne veut pas embrasser. Tarsi, par ailleurs, est une ville prospère et attrayante dessous de l'Espagne. Elle était connue à cette époque-là comme le portail de l'espoir, parce qu'il y a beaucoup d'emplois et d'opportunités en raison de la grande activité commerciale et des mineurs dans la région. Tarsi est dans la direction opposée de Ninive et représente également une réponse extrêmement opposée à l'appel de Dieu dans la vie du prophète et également dans notre vie aujourd'hui. Voilà. Voilà. Tarsis représente une vie prospère sans défi majeur, une vie facile, agréable et contrôlable, une vie tranquille, pas de gros problèmes et de la sécurité. Tarsis représente l'illusion d'une vie contrôlée par moi-même. Une vie centrée sur mes propres choix, loin de la présence et de l'interférence de Dieu. Tarsi représente la poursuite de mon bonheur personnel, malgré les plans de Dieu. Voilà, de l'autre côté, Ninive, en revanche, représente une vie de difficultés, de peur, d'insécurité et d'incertitude. Le simple fait d'arriver dans cette ville, c'est un risque, sa propre vie. Ninive représente pour Jean et représente encore pour nous aujourd'hui une vie de renoncement personnel et de dépendance totale de Dieu. Voilà. On en est d'accord? Voilà. Choisir Ninive, c'est mettre le royaume de Dieu et sa justice en première place de croire qu'il pourvoira à tous mes besoins. Ninive représente se donner totalement en façon inconditionnable à celui qui est donné, à celui qui s'est donné pour nous. Comment répondons-nous en tant qu'individu, comme personne et comme église aussi, au commandement de Jésus d'atteindre notre génération? Sommes-nous ouverts aux nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour, ou préférons-nous continuer à faire ce que nos parents et grands-parents ont fait et cela fonctionne à leur époque? Comment nous et comment notre Église, comment nous avons répondu au nouveau défi de cette génération? Dans notre prochain verset, verset 4, on lit « Mais l'Éternel fit souffler sous les mers un vent impétueux. Il s'élève sur la mer une grande tempête. Les bateaux menacent à faire naufrage. » Pensez à ce passage biblique. Souvent, les tempêtes qui n'est pas toujours, n'est pas chaque fois, mais souvent, les tempêtes qui surgissent dans nos vies ou les crises que nous traversons ou même les moments difficiles que nous vivons peuvent être que Dieu veut me parler ou veut nous parler. Au pire encore, souvent la tempête que subissent les autres personnes peuvent être à cause de moi-même. Réfléchissons. Dieu est souverain sur toute la création. C'est lui qui lance le vent fort, c'est lui qui forme la tempête, c'est lui qui intervient dans notre histoire. Dans le livre de Job, le chapitre 42, verset 2, nous lisons que c'est ça que Job le dit, « J'ai reconnu que tout peut tout, et que rien n'oppose à tes pensées, Seigneur. » Voilà, Dieu est souverain dans notre histoire, n'importe quoi. Les marins auront peur et l'a imploré chacun leur Dieu et les jetèrent dans les mers les objets qui étaient sur le navire afin de les rendre plus légers. Les marins remplis de peur craignent et imploraient chacun à leur Dieu. Au milieu de la tempête, les marins trouvaient le temps de tenir une petite réunion de prière. Voilà. Pendant la tempête de la vie, et des gens qui ne connaissent pas le Dieu, et le moment qu'ils s'arrêtent aussi pour chercher, pour prier à Dieu. Ils imploraient le Dieu. Ils priaient pour leur Dieu intervenir. Ils plaignent pour leur propre vie. Voilà. Ce sont des marins professionnels, habitués à affronter des rudes tempêtes de la mer et des rudes tempêtes de la vie aussi. Des gens désespérés qui cherchent de quelque manière où que ce soit le salut pour la vie. Ces marins sont comme les gens qui nous entourent. Ils cherchent désespérément des solutions à leurs problèmes sans savoir où trouver la réponse. Le texte nous lit aussi qu'ils jetaient leurs marchandises, leurs charges à la mer. Ils se dépouillent de tout ce qu'ils ont dans la tentative désespérée de sauver leur vie. Ce texte nous montre qu'en face des plus grandes menaces de la vie, que nous estimons le plus important, tout ce que nous possédons ou ce que nous donnons la priorité en vie, en face de la mort, tout perd sa valeur. Voilà, en face de la mort, en face des gros problèmes de la vie, tout perd sa valeur. La poursuite de la réalisation personnelle perd son bout d'être et sa valeur face à la perspective de la fin de notre existence. Ils abandonnent tout pour vivre encore. Ils jettent tout à la mer, renonçant à leurs biens, à leurs richesses, une chance, la possibilité de la vie. Jonas descend à le fond d'un navire, se couche et s'endormit profondément. Pour moi, personnellement, en tant que pasteur et missionnaire, ce que dit le texte biblique est un grand avertissement que je crois que aussi pour notre église aujourd'hui. Voilà. Jonas descendit au fond du bateau, se couche et s'endorme profondément. Profondément. Comme quand quelqu'un peut dormir à l'intérieur d'un bateau qui coule au milieu d'une grosse tempête. Comment un prophète peut-il devenir si indifférent et dormir au milieu d'une grande réunion de prières? Comment devions-nous froids envers des personnes proches de nous qui ne savent pas où trouver l'espérance? La conclusion à laquelle j'arrive ici, c'est que lorsque nous nous éloignons de la volonté de Dieu, nous devenons insensibles à tout ce qui se passe autour de nous. Quand nous vivons pour satisfaire notre propre volonté, quand nous vivons pour satisfaire notre propre désir, quand nous sommes le centre de notre existence, nous devenons aveugles aux besoins de ceux qui nous entourent, aux besoins de notre prochain. Quand je vis pour ma satisfaction personnelle dans la douleur de mes voisins, ou de mon prochain, ne me concerne plus. En tant qu'Église, lorsque nous recherchons notre propre intérêt sans entendre la voix et la direction de Dieu, nous perdons toute la raison d'être pour les personnes qui nous entourent, notre quartier et notre ville. Nous devenons comme les seuls, le seul qui perd sa sauveur est comme la lumière qui est placée sous un boisseau. Le capitaine s'approche de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne périssons pas. » De nombreux commentateurs de la Bible disent que Jonas dormit un sommeil comme échappatoire. C'est ça? Voilà. On comprend bien, merci. C'est un sommeil comme échappatoire à vos soucis, un sommeil comme une évasion de vos ennuis. Il affirmait que les personnes en profonde détresse ou tristesse, souvent se tourne vers l'alcool, la drogue et actuellement les Prozac, voilà, afin d'échapper aux problèmes qui tourmentent leur esprit. Le texte nous dit que le capitaine du bateau fut outragé par l'attitude du prophète et l'Éternel. Pourquoi dors-tu? Ne sachant pas qu'il est le prophète et qu'il est le Dieu de Jonas, le capitaine du bateau, désespéré et outré par la posture de cet homme-là, le capitaine le réveille et lui demande d'intercéder pour tout le monde dans l'intérieur de ce bateau. Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être vaudra-t-il penser à nous et nous ne périssons pas. Les gens ne savent pas où chercher la solution à leurs problèmes, où chercher la salut de ses propres vies, où chercher la paix qui transcende toute la compréhension. Nous, comme Jonas, les prophètes du peuple élu de Dieu, dormons du soleil de l'indifférence, préoccupés par nos activités privées, tandis que les gens cherchent des solutions à leur vie sans savoir où. Peut-être que le plus grand péché que nous commettons aujourd'hui est de vivre nos vies selon nos propres pensées et valeurs. Si mes choix et mes décisions sont motivés par ma fierté ou mon image personnelle ou même ma timidité, je ne pourrai jamais glorifier Dieu avec ma vie, avec mes actions. La grande question de ce texte-là pour nous aujourd'hui, c'est lorsque mes décisions sont basées sur mon égocentrisme, les problèmes et la douleur des personnes qui m'entourent deviennent sans importance. J'ignore ce qui arrive à mon voisin. Je dors comme Jonas au milieu du chaos. Nos activités ont pour but principal de nous satisfaire et non de glorifier à Dieu parmi les gens. Sur la question, pour nous, c'est où je base mon décision, comment je prends mon décision aujourd'hui. Nous sommes responsables devant Dieu de tout ce que le Seigneur place près de nous, selon le autre prophète Ézéchiel, chapitre 3, verset 16. Voilà. La fin de la narration de cette première partie du livre est très intéressante. Je n'en veux pas le temps pour avancer. Et justement, ce premier chapitre, c'est pour moi, c'est trois prédications différentes. Je vais essayer de tout ensemble, mais la question pour aujourd'hui que je voudrais laisser, c'est est-ce que nous écoutons, nous attendons la voix de Dieu, la direction de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle pour notre génération aujourd'hui, ou pour nous c'est facile juste de faire la même chose que notre père ou grand-père a fait dans le passé. Le monde, notre vie a changé beaucoup, voilà. Aujourd'hui, les jeunes et des grands-pères de ma génération n'arrivent pas facilement pour la communication. C'est difficile, c'est quelque chose, c'est comme un défi pour notre vie. J'ai trois filles, les plus âgées sont 34, les plus jeunes sont 25. Les deux premiers sont jumelles, hein. Et encore, je peux dire que la communication a changé beaucoup. Voilà. Les problèmes que nous aurons notre jour avec notre grand-père, notre père, n'est pas le même défi que nos jeunes, que cette génération a aujourd'hui. Et toujours, nous faisons la même chose dans l'Église. Voilà. Sinon, on risque de perdre cette génération-là parce que nous ne communiquons pas l'Évangile de façon que aujourd'hui les gens peuvent entendre et comprendre. Voilà, chaque fois qu'une église ne répond pas les grandes questions du corps de cette génération, cette église, elle est devenue sans souci, sans savoir pour le monde. On a besoin de savoir que cette génération d'aujourd'hui, quelles demandes, quelles sont les questions qu'elle pose, quels sont les défis qu'elle rencontre toujours dans sa vie. Et comme Église, le grand défi ici, c'est d'entendre la voix de Dieu et de donner la réponse à cette génération. Voilà, c'est ça que... Peut-être une prochaine fois, je peux continuer. Voilà, merci beaucoup.